Chapitre 11. Martin Numa, roi des détectives. Martin Numa laissa dans le midi ses amis, le chevalier Fontis et les deux femmes, le vieux Pietro sous la garde de ses agents, puis lui, avec Tony et Pippo, il rentra à Paris achever son œuvre. Il en savait assez maintenant et il pouvait marcher à coup sûr. L'heure de la justice devait enfin sonner. D'ailleurs, les événements se précipitèrent, comme il arrive le plus souvent après les recherches et les préparations. Une dépêche attendait Martin Numa au parquet, et cette dépêche disait ceci. Apprend qu'un individu, se disant marquis de Santucci, est fiancé avec fille banquier Castagnier. Prière suspendre ce mariage jusqu'à confrontation de ce marquis double avec moi, marquis véritable. Et cette dépêche était signée Primo di Carmine Santucci. Elle venait d'Amérique. Martin Dumas, cette dépêche dans la poche, se rendit chez Madame Castagnier et demanda à être reçu immédiatement par la veuve du banquier. Dans le salon, où il fut admis presque aussitôt, se tenaient la veuve du banquier, sa fille Jeanne, et le tonitruant en capitaine Baudin. Le capitaine avait une discussion des plus vives avec la veuve du banquier. La discussion roulait sur le prochain mariage de Jeanne, dont la veuve du banquier venait de lui annoncer les fiançailles avec celui qui aurait dû être le mari d'Irma. Madame Castagnier se déclarait excessivement heureuse d'avoir pu décider le marquis à entrer quand même dans sa maison en devenant le mari de Jeanne. Le capitaine Baudin s'écriait avec la franchise que nous lui connaissons. « Mais madame, vous commettez là une infamie. Ce marquis ne m'a jamais rien dit de bon qui vaille. Et ensuite, vous devriez remarquer que votre fille Jeanne ne l'aime pas et ne peut pas l'aimer. » Madame Castagnier sursauta et répliqua au bouillant capitaine. « Mais qu'en savez-vous et de quel droit me dites-vous cela ? Je le sais parce que, sans avoir jamais reçu d'aveu, ni de Jeanne, ni de mon ami Robert Allary, je sais que ces deux braves cœurs, qui sont bien faits l'un pour l'autre, s'adorent. Et je vous dis, madame, que votre devoir pour réparer le passé, qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici pour effacer les jours sombres et pour donner cette réparation qui est due, et que la mort seule de votre mari a empêché de se réaliser, pour que la famille Allary ait sa compensation et son retour de bonheur, je vous dis, moi, qu'il faut absolument marier Jeanne à Robert. » Madame Castagnier pensait suffoquer en écoutant le capitaine qui criait ça à pleine voix, malgré la présence de Martin Numa et les signes désespérés que lui faisait Jeanne. Et il continua, plus vibrant encore, « Et je vous dis, madame, que vous allez le faire, parce qu'il faut que cela se fasse. Il le faut pour deux raisons, car moi aussi j'ai un double dans mon affaire, comme votre marquis de contrebande. » La première raison, c'est que Jeanne et Robert s'adorent. La seconde, c'est que moi, j'aime Antoinette. Et comme j'ai l'habitude de faire toujours, quelque temps après, ce que mon ami Robert Allary a fait devant moi, il faut marier Robert à Jeanne pour que moi, madame, je me marie avec Antoinette. Voilà la meilleure des raisons. » Madame Castagnier allait répliquer, pleine d'indignation, et mettre cet insolent à la porte, lorsque ses yeux s'arrêtèrent sur le visage grave de Martin Numa, qui lui dit « Madame, je vous demande pardon de détruire vos illusions, mais le capitaine Baudin vient de vous dire à peu près ce que je suis chargé de vous faire connaître. » Et il ajouta « Oui, j'ai dans la poche une dépêche nous annonçant Ces jours-ci, l'arrivée du véritable marquis Primo di Carmine Santucci, dont le double qui vient chez vous a essayé de prendre la place après avoir voulu assassiner son frère. Votre marquis est un fils illégitime et un bandit véritable. Comme il disait ces mots, la portière du fond se souleva. Un homme entra, comme un fou, un revolver à la main. « Vous mentez, monsieur, vous mentez. Je suis le vrai marquis Primo di Carmine Santucci. Et vous n'êtes qu'un imposteur. Il n'y a qu'un vrai marquis, c'est moi. Et voilà comment je traite ceux qui osent seulement attenter à mon honneur. » Il braqua son revolver sur Martin Dumas et fit feu. Mais le revolver ne détonna qu'une fois. Il alla voler au plafond et l'on vit s'abattre comme une masse le marquis qui avait fini de jouer son rôle. Martin Dumas venait d'un coup de poing de l'étendre raide, sans connaissance, par terre. Martin Dumas, en rentrant chez lui rue Le Pic, trouva une visite qui l'attendait. C'était son ami Courville avec le bon papa Morrison. Le père Morrison, maintenant directeur de la banque Castagnier, sachant que j'étais ami de Martin Dumas et voulant voir tout de suite le détective pour lui donner une bonne nouvelle, était venu me trouver au journal. J'avais pris sur moi de conduire ce brave homme tout rayonnant de joie, tout vibrant, qui voulut chanter son bonheur à tout Paris, jusque chez le roi des détectives. Dès qu'il vit paraître Martin Dumas, il courut à lui, lui serra les mains et lui dit « Oh, j'ai une nouvelle, la voici. Je suis grand-père, ma fille Blanche est mère d'une jolie petite fille qui se porte admirablement. Charles m'a écrit pour me dire qu'il rentrait en France avec sa femme et aussi avec le marquis Primo di Carmine Santucci, dont il a fait la connaissance là-bas. Tous deux ont appris en même temps la mort du banquier et les fiançailles singulières de Jeanne Castagnier avec cet homme qui est, paraît-il, un parfait criminel. » Martin Dumas sourit et dit « Oui, mais il a fini de mal faire. » Dans la soirée, Martin Dumas m'emmena chez lui à Passy dans son atelier. « Regardez ceci, mon cher Courville, » me dit-il, en mettant devant moi sur la table un bloc d'acier de forme bizarre. « C'est un moule pour renier les fameuses bottines vernies des vrais assassins. » Et riant, il ajouta, « Oui, j'ai déniché cela chez le marquis. C'est tout bonnement un moulage du pied de la table du banquier Castagnier, sur lequel s'est abîmée la bottine de l'assassin. » Et avec ce moulage à la main, comme je l'ai dit, on a écorché au talon une bottine vernie qu'on a, sans qu'elle s'en doutât, chargé Octavie de vendre au Bougnat pour qu'elle tombât sous mes yeux et me fît prendre une fausse route. Encore une fois, je ne me suis pas trompé. » Et comme je le complimentais, il m'arrêta en me demandant du feu pour sa cigarette. Le lendemain de son installation dans la villa de Nice, qu'un ami lui avait offerte pour les deux jeunes femmes, le chevalier Fontis reçut une visite. Dans le salon, une femme, vêtue de noir, un grand voile de deuil rabattu sur le visage, fut introduite. Et quand elle fut seule avec le chevalier, elle releva son voile, et le chevalier reconnut Elvira Focamore. « Raffaele, » dit-elle vivement, s'approchant de lui, « Raffaele, je suis traqué. Le marquis Primo, mon frère, a été abattu par cet infernal Martin Dumas. Tous mes compagnons sont pris ou vont l'être. Ma vie est entre tes mains. Je viens te demander de me sauver, Raffaele. » Tu es le plus grand, tu es le plus généreux, tu es le plus noble des hommes. Sauve-moi, sauve-moi. » Le chevalier regarda cette femme tremblante, suppliante devant lui, et dit : Madame, j'avais un ami que j'aimais comme un frère et vous l'avez tué. Madame, je vous ai chassé de chez moi à coups de fouet parce que vous avez voulu me tuer. Madame, vous avez essayé de tuer cette pauvre enfant, Ginetta, cet oiseau des rues qui ne savait que chanter. Pardon, pitié. Si vous me jurez de ne plus faire le mal, de vous repentir, de vivre dans la retraite où je vous cacherai, madame, je vous sauverai. Oh oui, Raphaël, oui, sauve-moi. Mais la belle Focamole poussa un cri. Oh, trop tard. Martin Dumas venait d'apparaître à la porte du salon. Folle de terreur, Elvira se sauva par une porte-fenêtre à l'autre bout du salon. Cette porte-fenêtre donnait sur une terrasse surplombant les rochers que battait la mer et d'où descendait un escalier de marbre. En fuyant, Elvira glissa sur les marches de cet escalier. Elle roula par-dessus la balustrade. La chanson de la mer étouffa son atroce cri d'épouvante et le bruit de son corps admirable s'écrasant en bas sur les rochers. Martin Dumas avait fait établir une souricière tout autour du palais du prince Ramolino qui semblait être le quartier général de la bande des X. On laissait entrer qui voulait, mais personne ne s'échappait. Ceux qui sortaient étaient discrètement cueillis et emmenés. À l'intérieur de l'hôtel, un brouhaha affolé, un branle-bas par tout l'immeuble, une panique énorme. Le prince, ses compagnons, ses domestiques préparaient fébrilement leur départ, leur fuite. Martin Dumas, maître de l'heure, muni de mandat d'arrêt contre tous ces gens, sonna la grille de l'hôtel du prince Ramolino. Toute la bande des X s'y trouvait, les Palestrini, l'Espagnol, les serviteurs de la Focamore. Et au coup de sonnette de Martin Dumas, la Palestrini, qui en souriant, avec sa pomme empoisonnée, avait failli priver Béziers d'une représentation en vain, ténor et ami du genre humain, de l'ami Bassette, s'évanouit et pensa mourir de terreur. Naturellement, on refusa d'ouvrir la porte à Martin Dumas. Et pendant que le roi des détectives faisait forcer cette grille, les bandits fuyaient par d'autres rues et se précipitaient dans des autos commandées par eux. Le prince, ses amis, ses gens criaient au chauffeur « Dépêchez-vous, filez, filez !» Les voitures filaient. Les bandits respiraient, se croyant sauvés. Mais en route, ils avaient beau ordonner aux chauffeurs d'aller à une gare quelconque, les chauffeurs n'obéirent point. Sans encombre, à grande allure, escortés par d'autres taxis, les autos que conduisaient ces chauffeurs sauveurs se dirigèrent vers le dépôt, où ils firent une entrée, sinon solennelle, du moins très sûre. En prévision de cette fuite, Martin Dumas avait fait remplacer les chauffeurs des autos commandés par le marquis par des hommes à lui, de sorte que, depuis la sortie de l'hôtel, toute la bande des X était prisonnière. Mais ce qu'on appelle, me dit-il en riant, tout heureux, quand on finit un bon ouvrage, le dernier coup de pouce. Oh, vous êtes bien le roi des détectives. Martin Dumas se mit tout simplement à rire et il alluma une nouvelle cigarette.